Comme prévu, je reçois maintenant le docteur Jean Drouin. Bonjour, monsieur Drouin.
Oui, bonjour.
Alors, monsieur Drouin, qui vient nous parler de l'andropause, mais qui est d'ailleurs même fondateur là, de la clinique ici d'andropause de Québec.
Exactement.
Est-ce que c'était est-ce que c'est une première au Québec? Est-ce qu'il existait avant? Là?
Non, c'est on se replace en 99 la clinique a été fondée. Je l'ai fondée avec deux psychiatres. Et okay. Ces deux psychiatres-là, c'est intéressant. L'anecdote autour de ça disait combien d'hommes et combien de femmes, parce qu'on a la testostérone aussi chez la femme, on l'a traité avec des antidépresseurs alors qu'on aurait dû peut-être mesurer les hormones et c'est peut-être juste un manque de testostérone.
On est
parti de là en 99 avec
okay.
cette notion-là qui était super intéressante. Et ensuite, la façon dont j'ai monté ça, ce sont des médecins de famille, mais un peu plus spécialisés dans le domaine de l'hypogonadisme ou encore du syndrome de déficience en testostérone ou encore de l'andropause. Il y a toutes sortes de qu'on a donné ce syndrome-là. Donc, médecins de famille qui sont autour de ça, des sexologues qui sont autour de ça, des urologues, donc des référents, tout ça, des endocrinologues. Donc, c'est tout ce contexte-là autour de la clinique d'andropause et tout ça sur un régime d'assurance maladie, ce qui est assez exceptionnel,
oui.
Parce que ça aurait été facile de faire ça en privé. Et tout ce monde-là s'est regroupé autour du concept de la clinique d'andropause de Québec pour ensuite développer un système de formation, c'est-à-dire des formations régionales pour les médecins, de formation du côté national, international, et ainsi de suite. Donc, formation continue.
Ah, oui.
Parce qu'on s'est aperçu qu'il fallait informer les médecins. Au départ, les médecins n'y croyaient pas. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a loué des locaux à l'Hôtel Québec ici. On a fait des séances d'information grand public. Il y avait 150 personnes plusieurs fois. Ces gens-là, il y avait une pharmacienne qui était là, qui expliquait aussi les médicaments, les traitements. Et ces gens-là qui sont venus aux formations ont été sensibilisés à leurs médecins qui, eux, ont demandé des formations continues.
Donc,
la population.
Okay.
Parce qu'on était parti du côté médical, il y avait peu
d'ouverture
puis peu d'études. C'est-à-dire que vous ne verrez jamais d'études 5000 hommes traités avec la testostérone puis 5000 hommes placebo. C'est impossible.
Okay. Mais
l'endocrinologie s'est toujours développée comme ça. L'insuline, on n'a pas fait de groupe placebo avec l'insuline, c'est même dangereux. La thyroïde, c'était pareil aussi. Donc, finalement, on a une hormone qui manque, il y a des symptômes qui sont associés à ce manque d'hormones. À ce moment-là, on fait le remplacement. Hein. C'est un peu dans ce sens-là qu'on a commencé cette clinique-là. Avec, évidemment, des tests. Ce qui est important, c'est qu'il y a un questionnaire d'évaluation pour le patient, la personne qui se présente. Il y a des prises de sang qu'on a eu à calibrer qui sont des fois un peu plus complexes aussi. Puis il faut être plus spécialisé pour analyser tout ça.
C'est pas une prise de sang conventionnelle. Là. Je veux dire, oui, c'est une prise de sang conventionnelle, mais je veux dire, l'analyse n'est pas la même. Donc, il faut vraiment faire la demande.
Ouais. Mais ce qui est important pour le message, c'est que le médecin va vous dire, souvent votre médecin de famille va doser la testostérone qu'on dit totale.
Okay.
Mais il faut aller plus loin que ça. Il faut doser, il faut se placer en endocrinologie où la sécrétion de testostérone par le testicule est sur le contrôle de la glande hypophyse, c'est une glande qu'on a au cerveau, avec l'hormone de la LH. Donc on comprend bien que si le testicule vieillissant ralentit sa sécrétion de testostérone, ben la LH va monter en disant au testicule, ben, sécrète, grouille-toi, fait quelque chose, là, t'sais, en soi. Donc, c'est une bascule de même, une globalité qu'on doit aller chercher. Ça, c'est pour l'homme de 50-55 ans.
Okay.
Maintenant, on a des jeunes, 25, 30, 35.
Ah oui, oui.
Et ces jeunes-là, eux autres, c'est souvent les opioïdes, donc c'est central à ce moment-là. La chimiothérapie, peut-être la marijuana, le destin ci, il y a des études qui sont en cours là-dessus.
Ah, oui.
Donc, qui baissent l'hormone de l'hypophyse qu'on a au départ. Et là, finalement, c'est la testostérone qui va baisser. Donc, on retrouve des hommes qui ont pris des opioïdes à 30, 35 ans qui ont une testostérone d'un gars de 70 ans.
Donc, Donc, c'est pas juste un problème d'hommes de 50 ans.
Non. À la clinique, on envoie de tous les âges. Et malheureusement, ça, c'est un autre message qui est fort important, les gens de centres sportifs qui prennent des anabolisants de fortes doses, on les retrouve souvent avec un axe, donc l'axe hypophyse testicule, en péril, en difficulté, très jeune. Donc, ces hommes-là ont même la difficulté à procréer, à avoir un nombre de spermatozoïdes suffisant. Donc, il y a aussi tout un monde autour de la santé de l'homme où on pense que c'est juste les hommes vieillissants.
Ouais,
ce qui est encore plus intéressant dans les derniers temps, c'est que quand j'ai commencé la clinique, la moyenne d'âge était à peu près 55 ans.
Okay.
Et là, notre moyenne d'âge de gens qui consultent est autour de 48.
Qu'est-ce qui peut se passer?
Oui, vous allez me dire, peut-être que les gens sont plus au courant, peut-être qu'il y a tout ça.
Ouais.
Mais il y a plus que ça, il y a les perturbateurs endocriniens qui, tranquillement, les hommes, on est plus sensible que les femmes aux perturbateurs endocriniens. Ça, c'est tout ce qu'on trouve dans les pesticides, insecticides, et ainsi de suite. Donc, tranquillement, ça s'infiltre dans le système endocrinien, ce qui amène une baisse de ce fameux hormone de la LH qu'on parlait tantôt, et secondairement, évidemment, on se retrouve avec aussi une diminution du côté de sécrétion de testostérone. Donc, c'est ça qui est passionnant et qu'on retrouve la qualité de vie des hommes, mais on retrouve que 30 % des diabétiques ont une testostérone basse, qui a un lien avec la testostérone basse et la maladie cardiovasculaire et le cancer de la prostate. Donc, il y a quand même de la pathologie autour d'une qualité de vie chez les hommes aussi qui devient intéressante, parce qu'un gars qui a l'air déprimé, qui veut plus rien faire, qui manque d'intérêt de la vie dans tous les niveaux, autant sexuel que dans d'intérêt global d'entreprendre des choses, bien évidemment, c'est aussi un homme qui souffre à ce moment-là.
OK. Donc, c'est ça, parfois, ça peut être associé à la dépression ou une période de burn-out ou quoi que ce soit, puis au contraire, ça peut être plutôt hormonal. Donc, c'est pour ça, parfois, les médecins sont peut-être pas assez informés de cette problématique-là?
Bien, ce qu'il faut penser, le message qu'on donne aux médecins, c'est exactement ça, c'est que tout patient, toute personne qui se présente, mettons dans la cinquantaine, avec des symptômes qui ressemblent à la dépression, on met un dosage de testostérone au dossier. Ça se peut que ce soit une dépression, mais ça se ressemble tellement.
Okay.
Et si la testostérone est très basse, puis si on est sûr que c'est une dépression, on traite la dépression, mais après ça, on peut aussi donner un remplacement de testostérone et cet homme-là va marcher plus, être plus actif. Dans son but, c'est de sortir de la dépression en soi. Et de temps en temps, on se retrouve aussi avec des... Il faut faire attention à nos antidépresseurs qui donnent aussi des troubles de la fonction érectile. Donc, on se retrouve avec un mix de traitement de la dépression qui va peut-être aggraver des symptômes qui sont de l'autre côté aussi en même temps.
Ouais. Parce que la testostérone, c'est la drive, c'est ce qui donne la drive aux hommes.
C'est l'hormone du bonheur. Tu sais, hier soir, tout le monde en parle, il est où le bonheur?
Oui, oui.
C'est l'hormone du bonheur. Pourquoi? Parce que vous avez 50 ans, vous avez envie de faire quelque chose, le cerveau fonctionne très bien, mais le corps, le physique, ne suit pas. Donc, cet homme-là est malheureux. J'ai vu des hommes d'affaires vendre leur commerce, des hommes d'affaires prendre leur retraite très tôt, et quand ils sont traités, ajustés, les jeunes d'affaires refont d'autres choses. La drive est là.
Okay.
Et à tort, on a pensé longtemps que la baisse de testostérone, c'était juste sexuel, alors que c'est beaucoup plus qualité de vie globale, entrepreneur comme
ça. OK, ouais, c'est vrai, on l'associait beaucoup à la sexualité, mais il n'y a pas que ça.
Non.
OK. Ce que vous disiez, donc, tantôt, ça ressemble, les symptômes ressemblent à la dépression, mais il y a d'autres symptômes, je comprends bien aussi.
Il y a le symptôme qu'on va retrouver souvent, qui est très spécifique, l'homme qui a chaud, des bouffées de chaleur.
On
dit que c'est juste les femmes qui ont chaud, mais c'est les gars ont chaud, puis ils ont chaud en arrière de la tête, c'est curieux, en mangeant. Alors moi, je m'amuse quand je me promène dans les bras, je vais essayer de voir ce qui a chaud à 50 ans. Mais c'est un symptôme basomoteur d'une baisse de testostérone. Il y a des hommes qui changent de chemise deux fois dans la journée tellement ils ont chaud.
Okay.
Il y a un symptôme qui est fort important, c'est la diminution des érections matinales. Parce que la testostérone, elle a un cycle de 24 heures. Elle est plus basse vers 20 heures, puis tranquillement, elle monte au cours de la nuit, puis à 4 heures du matin, à peu près autour de ça, on retrouve des érections matinales parce qu'on a un taux de testostérone qui est plus élevé. Donc, l'homme qui perd ses érections matinales, c'est un symptôme important. Et c'est celui qui revient le plus vite quand on traite. Il y a des gars qui nous appellent la semaine d'après, « Hey, Doc, tu m'as donné... » Je suis bien content. L'autre chose qu'on va retrouver aussi, des symptômes de douleur musculo-squelettique. C'est-à-dire, c'est le monsieur qui joue au badminton, puis avant ça, il n'y avait pas de problème. Là, il se retrouve avec des douleurs tendineuses, surtout. Les anciens analysaient ça très bien en disant « Je manque d'huile dans les articulations.
»
C'est l'action de la testostérone sur la lubrification des tendons. C'est pas de l'arthrose, c'est pas rapport avec l'arthrose, c'est vraiment utilisation de tendons, l'homme qui va bricoler, celui qui va faire de la pâtisserie, et ainsi de suite, des tendons utilisés, c'est des douleurs qui vont apparaître aussi à ce moment-là comme tel. L'autre, c'est des symptômes qui vont l'homme qui s'endort après les repas. Celui qui, après le souper, quand il est obligé d'aller se coucher, de plus en plus, c'est un autre symptôme aussi. tous ces symptômes-là viennent des récepteurs de la testostérone qu'on appelle les récepteurs androgéniques. Puis ils sont partout dans le corps. En ce moment-là, c'est pour ça qu'on peut avoir des symptômes dépressifs, des symptômes de troubles d'érection, des symptômes de qu'on s'endort après les repas, on a chaud, on a des troubles d'érection matinale, la peau sèche qui peut apparaître aussi telle. On sait que l'homme de 18 ans, acné, peau grasse.
C'est ça, c'est contraire.
Le testo baisse, la peau est sèche à ce moment-là.
Ah, ouais. Donc c'est vrai que si un homme est diagnostiqué pour la dépression, puis commence à prendre des antidépresseurs, et puis ça peut aller complètement dans l'autre sens. Au lieu de l'aider, ça va encore l'éteindre plus, encore plus.
Ben, ça veut dire qu'il faut être vigilant. Ça veut dire oui, ça peut être une dépression, mais ça peut être intéressant de mesurer la testostérone et de faire un lien. Si elle est normale, la testostérone, c'est sûr que le traitement d'antidépresseur reste à la place.
Ouais, c'est ça. Mm-hmm.
Et la psychothérapie dans la dépression et tout le reste. Mais c'est bon d'avoir une valeur physiologique comme telle. Et moi, je dis souvent aussi aux couples, aux gens qui sont en difficulté, c'est nos hormones et nos émotions. Ben, finalement, si vous avez une difficulté de couple, mesurez donc vos hormones avant de vous laisser. Parce que c'est incroyable la qualité des relations humaines qui sont en trame de fond des hormones, et c'est de la physiologie. Je l'aime, je ne l'aime pas, ça n'a même plus rapport. La vie est plate pour la personne parce que lui se trouve plate, parce que son hormone est basse à ce moment-là.
C'est vraiment biologique. Là.
Très biologique. C'est bon de faire un petit bilan. Puis après ça, ben, peut-être que vous allez vous laisser pareil, mais au moins, vous allez savoir pourquoi.
Vérifier ça. Justement, les hommes qui souhaitent aller un petit peu investiguer là-dedans, et ils vont quand ils vont rencontrer leur médecin, qu'est-ce qu'ils demandent exactement?
Il y a deux façons de faire. Puis on laisse les médecins très libres là-dessus. Les patients, les clients vont voir leur médecin en disant « Moi, je voudrais faire vérifier mes hormones de testostérone. » Le médecin de famille peut dire « Moi, je ne suis pas tout à fait à l'aise avec ça parce que c'est un petit peu plus spécialisé. » Il réfère à la clinique d'andropause ici de Québec, là, comme tel. Faut dire que la clinique d'andropause de Québec, c'est assez unique en termes de système d'enseignement parce qu'ailleurs au Québec, ce sont plus des médecins qui sont plus solitaires jusqu'à un certain point et c'est beaucoup en privé. Le modèle Québec est très différent des autres. Donc, on laisse le médecin libre de tout ça et de temps en temps, on va traiter le patient et laisser encore le médecin de famille le choix. Dire, tu peux le suivre, on peut le suivre. Étant donné qu'on ne veut pas le surcharger, puis il y a un peu de tests. Donc, ce qui est important, par exemple, si on va vérifier la LH, l'hormone de l'hypophyse, on vérifie la testostérone totale, mais il y a d'autres tests qui, la SHBG, puis différents tests pour permettre d'avoir un meilleur diagnostic. Alors, c'est pour ça qu'on ne veut pas surcharger le médecin, même s'il y en a plusieurs qui, de plus en plus, sont capables de. Donc, on demande à son médecin de famille. S'il ne veut pas, à ce moment-là, la personne peut venir à la clinique d'andropause.
Donc, il n'y a pas besoin d'être référé par un médecin.
Non. On voulait ça absolument parce que ça ne veut pas tenir le patient en otage. Okay. Si le médecin de famille ne veut pas ou ne croit pas, mais là, c'est comme coincé à ce moment-là.
Donc, ils peuvent appeler directement à la clinique les hommes qui veulent avoir un suivi là-dessus.
La clinique d'andropause de Québec, qui ici est à Polyclinique La Capitale, près de la première avenue à ce moment-là.
OK. On parle bien sûr de c'est quoi justement, il y a la testostérone. C'est comment ça s'applique, comment ça se fait là, pratiquement là, quand un homme a à faire cette démarche-là.
Mettons que le diagnostic est fait, si on a un traitement à faire, là, il y a un menu. On propose aux hommes. Le menu, on ne peut rien faire aussi. On l'informe sur. Parce qu'il y a des hommes qui vont dire moi, je veux avoir un traitement naturel. Il y a même une ostéopathe qui a fait avec nous autres un projet de recherche sur le travail, pas pour augmenter les hormones, mais pour travailler sur la vascularisation du testicule en disant le niveau qui est bas, s'il se rend mieux aux organes cibles, on va être plus efficace. Donc, il y a des traitements qui sont naturels, plus lents, si on veut, jusqu'à un certain point. Puis, il y a les remplacements hormonaux qui se font souvent sous forme de gel. Il y a deux types de gel. Donc, le monsieur, le matin, applique un gel sur les deux bras après la douche. Il y a un tube qui est un peu plus d'odeur qui s'appelle Testim. Le premier gel, c'est l'androgel. Il y a l'injectable. Les gars sont pas trop forts, c'est injectable. En tout cas, il y a l'injection une fois par semaine, 50 mg de délatestril, par exemple, ou encore aux deux semaines en soins infirmiers ou CLSC qui est donné. Il y a la dernière testostérone, c'est une testostérone dans le nez. Une application à ce moment-là, dans la narine, le côté mou de la narine, matin et soir. Donc, c'est deux applications par jour, comme tel. Et ça, c'est une testostérone qui est très prometteuse dans le sens de... Son nom, c'est Natesto. Et dans le sens que la dose est moindre, que les sachets, sauf qu'on se retrouve avec une meilleure absorption dans le sens que le nez, les petits vaisseaux sont tellement plus faciles que de mettre ça sur la peau
ou ouais,
traverser hein. Un espace à ce moment-là. Alors, il y a tout ça. Et il y a aussi la testostérone naturelle, phytotestostérone, qui s'appelle le Tribulus terrestris. Donc, ça, c'est une autre plante aussi.
Okay.
Donc, les hommes ont un plan de traitement. On les suit dans la première année. Là, la question qu'ils ont, est-ce que ces hommes-là vont donner le cancer de la prostate?
Ah oui, oui,
la réponse,
oui.
C'est non. S'il y en a un qui est là, ça va stimuler, c'est bien sûr. Mais on estime que le niveau de testostérone bas est beaucoup plus relié au cancer de la prostate qu'un niveau élevé. Il y a comme un seuil à avoir, comme les maladies cardiovasculaires. Donc, finalement, c'est la crainte que les hommes ont, c'est d'avoir le cancer de la prostate à chaque fois qu'on donne les hormones.
Et sais-tu aussi, j'imagine, est-ce qu'ils se posent la question de savoir est-ce que je vais devoir prendre ça tout le restant de ma vie? C'est une chose aussi que j'imagine qu'ils posent.
C'est intéressant comme question parce que c'est la première question qu'ils vont poser. Et nous autres, ce qu'on fonctionne, c'est par contrat d'un an. C'est-à-dire, on commence une année, il faut se donner le temps d'avoir évalué les 10 ou 15 facteurs qu'on veut vérifier. Au bout de l'année, on se dit, est-ce que c'est encore nécessaire d'en prendre ou non? Puis si on ne le sait pas, on fait un arrêt d'un mois ou deux. On regarde un peu comment ça se place. Dans le fond, il faut traiter quelqu'un qui a des symptômes. Et les gens qui ont des hommes qui ont besoin d'être traités, il y a environ 35 à 40 % des hommes qui ont une testostérone à traiter.
Ah oui, quand même.
Comment on en traite?
Non.
3 %.
Hey boy! On est loin.
Il y a un 30 % de gars qui se promènent
dans la nature.
Qui auraient besoin de possiblement un remplacement de testostérone à ce moment-là.
Okay.
Alors, donc, ce n'est pas un traitement à vie, mais souvent, les hommes vont continuer. Quand ils arrivent dans 70, 75, souvent, on baisse la dose parce que le besoin est moindre aussi pour l'activité autant professionnelle ou autre à ce moment-là.
OK. Et ensuite de ça, comme vous disiez, si on est face donc à un médecin qui y croit en main, on va directement à votre clinique qu'à ce moment-là, on n'a pas besoin de passer par notre médecin de famille.
C'est ça, exactement. On va voir la clinique. Il y a 5 médecins qui sont associés, un médecin de famille plus spécialisé à la clinique d'andropause de Québec. Et là, à ce moment-là, il y a un rendez-vous qui est donné. Et s'il y a un soin de spécialité qui est nécessaire, urologie, endocrinologie...
Vous avez tout ça là.
Il y a un corridor de service qui peut être établi à ce moment-là, sexologie. Par contre, c'est très difficile de faire un gars sexo. Ça, c'est pas le gars le plus occupé. On favorise beaucoup les couples, c'est-à-dire
que ce soit le couple
homme-homme ou le couple homme-femme. Parce que si on traite juste un gars, puis que son conjoint ou sa conjointe n'est pas traité, il y a une variation qui peut se produire et avoir... j'ai vu des couples là, qui s'est mis à chauffer. Tu sais, bon, le désir sexuel augmente. La madame est en ménopause, elle est bien contente. Finalement, tu te retrouves avec...
Il y a un décalage.
Soit dans le coup, là, dans le traitement. C'est pour ça que j'ai écrit le livre Le couple en pause à un moment donné en disant arrêtez-vous avant de divorcer. Vérifiez vos hormones.
C'est ça. Bon, donc justement, si on veut en savoir un petit peu plus, il y a cette lecture-là qui est possible.
Le couple en pause, c'est aux éditions Le Dauphin Blanc.
Okay.
C'est un livre qui résume les symptômes de l'andropause, de l'hypogonadiste chez l'homme et chez la femme aussi, et qui donne des solutions. Il y a des notions de sexologie à travers tout ça. Il y a les petits questionnaires que les gens font dans le livre pour être capable de s'évaluer et d'évaluer tout ça.
Okay.
Est-ce que ça vaut la peine de faire des tests ou non?
On peut s'auto-évaluer un petit peu avec ça aussi.
C'est ça, on a un bon indice. Ça.
Parfait. Merci beaucoup, M. Drouin. Alors, c'était bien intéressant, puis ça va nous permettre justement peut-être à certains hommes au moins d'être un petit peu plus informés, parce que des fois, effectivement, on n'entend pas autant parler qu'effectivement que la ménopause, malheureusement. Et puis, il y a le livre que vous avez écrit. Plus on peut aller voir, j'imagine, sur Internet, s'informer auprès de notre médecin de famille aussi, les différentes possibilités.
Oui, il y a beaucoup de sites en santé de l'homme. Entre autres, les gens qui sont intéressés, il y a le SMSNA, le Sexual Medicine of North America, qui résume, ils ont un site, un magnifique site. Puis c'est un groupe de scientifiques, urologues, ainsi de suite. Puis les questions sont souvent là-dessus à ce moment-là. Il y a un site québécois qui est Supra Santé aussi. C'est un site qui est pas très actif, mais il résume les symptômes, tout simplement. Puis les symptômes, ils varient pas tant que ça au fil des années. Ce sont souvent les mêmes symptômes qui vont apparaître.
Bon, super. Alors, M. Drouin, on vous remercie beaucoup de votre visite. Et puis, on invite les hommes à s'informer s'ils ont des doutes, justement, sur ce qui se passe chez eux.
Merci.
Merci beaucoup
pour votre travail d'information.
Merci.